autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous interroger sur les paradoxes aujourd'hui. Si je vous dis, par exemple, je suis une menteuse, c'est vrai ou c'est faux? Si je suis vraiment une menteuse, c'est vrai, mais comme je mens, c'est faux. Et si je ne suis pas une menteuse, c'est tout aussi faux. Alors comment faire avec ces failles dans la logique, ces taches sur la peau immaculée de la raison, comme le dit joliment notre invité, le mathématicien Maurice Milgram, qui nous fait partager les expériences de pensée les plus bizarres, étranges, voire absurdes, dans un essai intitulé « Les paradoxes n'existent pas, mais sont quand même bien utiles », ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. Alors à quoi nous servent tous ces paradoxes qui nous amusent, nous agacent et nous font penser autrement que des machines? Tiens donc, autour de la question « À quoi nous servent les paradoxes et que révèlent-ils de notre humanité ?» Bienvenue pour nous interroger ensemble.
C'est le moteur de la pensée pour moi, le paradoxe. La vie est complexe, la vie est ambivalente, et le paradoxe nous aide à cerner ça, à approcher cette ambivalence-là.
Jamais je n'aurais cru que le système était si fragile. L'architecte, le métaphysicien qui nous avait créé, nous avait pourtant assuré que notre monde a été parfaitement logique, complet et cohérent. C'est-à-dire un monde où toute question a une réponse, une phrase ne peut être à la fois vraie et fausse.
Et pourtant, bonjour Maurice Milgram.
Bonjour Caroline Lachowski.
Merci d'être en direct avec nous autour de tous ces paradoxes qui n'existent pas, mais qui sont pourtant bien utiles, pour reprendre le titre de votre essai forcément paradoxal, paru aux éditions du Pommier. Précisons tout de suite que vous êtes mathématicien, que vous aimez explorer les frontières de votre discipline, professeur émérite à l'université Pierre et Marie Curie. Vous avez mené vos recherches, Maurice Milgram, sur des modèles d'apprentissage et de reconnaissance des formes, membre fondateur de l'Institut de robotique, du Laboratoire de robotique de Paris et de l'Institut des systèmes intelligents et robotiques de l'Université Pierre et Marie Curie, donc des recherches à l'interface entre la logique froide, rigoureuse, calculatrice des machines et le raisonnement bien plus intuitif, complexe et parfois faillible des humains. Vous m'avez confié, Maurice Milgram, sous le sceau du secret, mais je vais le révéler à nos auditeurs, avoir toujours détesté la logique. Alors pour un mathématicien, c'est quand même étonnant, mais ça explique peut-être votre intérêt pour les paradoxes.
Tout à fait, oui. On peut considérer que je suis un paradoxe vivant, puisque ayant peu d'attrait pour la logique, je lui ai consacré quelques années et ça a abouti à ce livre qui essaye d'explorer, comme vous l'avez dit, la frontière entre l'intuition et la logique. Et il s'est trouvé que le paradoxe, je l'ai rencontré à chacun des carrefours, et ça a été le moteur, ça a été le déclencheur, comme on peut le dire. Et finalement, c'est un véhicule qui est assez pratique pour faire passer des tas d'idées, des notions qui sont au premier abord relativement abstraites et finalement qui s'avèrent connectées à des sujets on pourrait presque dire des sujets de société. D'ailleurs, la collection dans laquelle le livre est sorti aux éditions du Pommier, et une collection qui s'adresse à des gens qui s'intéressent à des sujets de société et pas à des sujets purement scientifiques.
Oui, c'est ça, c'est vraiment, enfin on va le voir, hein, y a un lien entre notre intelligence paradoxale et celle des machines. Vous nous faites partager finalement toutes les expériences de pensée possibles, hein, autour des paradoxes. Alors, le plus simple, peut-être, ou le plus évident comme ça, c'est le paradoxe du menteur, hein, que j'ai cité.
Oui, tout à fait. Oui, alors, historiquement, on considère que c'est le plus ancien paradoxe, de Didée, Pyménide, probablement plutôt de Bulide, mais peu importe.
Des Crétois.
Des Crétois, voilà. Et même Saint-Paul a porté sa pierre à l'édifice dans une de ses lettres, une de ses épîtres, et parlant de ces Crétois qu'il n'aimait pas beaucoup. Et donc, ce premier paradoxe qu'on met dans la catégorie paradoxe de l'autoréférence, qui dans mon livre sont dans la section miroir, parce qu'il y a un effet de miroir, une phrase qui se contredit elle-même.
Je suis une menteuse, voilà, ou tous les Crétois sont menteurs.
Voilà, absolument. Et alors, il y a des versions extrêmement déguisées du paradoxe du menteur, comme alors bon, il y aurait beaucoup d'exemples qui sont dans le livre, comme la machine véridictive, une machine qui prétend être capable de dire la vérité, c'est-à-dire quand on nous soumet un texte, elle prétend être capable de dire si ce texte est vrai ou pas. Et on la piège en lui soumettant un texte qui est « tu vas dire que ce texte est faux ». Et évidemment, la machine est coincée.
Oui, même la machine est coincée par ce paradoxe-là, finalement.
Oui, oui. Mais quand vous dites « même la machine », c'est plus facile de coincer une machine que de coincer un être humain. Parce que justement, l'intuition dont je parlais, même si c'est un terme qui, a priori, n'est pas très bien défini, on peut le définir en y passant un peu de temps, l'intuition permet aux êtres humains de faire des références avec le monde réel. Nous avons tout un stock d'expériences et de vécu qui nous permettent, quand nous lisons une phrase, de l'associer à des choses beaucoup plus concrètes. Pour nous, nous ne faisons pas que parcourir des symboles sans signification, comme une équation. Par
exemple. C'est ça, comme une équation. Donc, à l'heure des algorithmes, hein, des machines qui calculent et qui calculent tout, c'est très intéressant de s'arrêter sur ces paradoxes, justement, que nos formes d'intelligence, on y viendra, notre intuition, les effets miroirs, nous permettent de faire avec. Hein. Nous sommes nous-mêmes assez paradoxaux et contradictoires. Les machines, par contre, elles ne peuvent pas faire avec les paradoxes. C'est une autre, c'est la logique pure et dure, là, pour le coup, les machines.
Oui, alors, il faut être très prudent quand on parle des machines, c'est-à-dire des ordinateurs, c'est-à-dire en fait des programmes, des algorithmes.
Pour lesquels vous avez beaucoup travaillé. Hein. Je signale juste au passage que votre premier thésard n'était autre que Yann Lequin, référence mondiale aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle.
Oui, mais je ne revendique rien des travaux qu'il a fait.
Vous avez travaillé avec des scientifiques, des informaticiens sur ces questions-là.
Oui, tout à fait, les réseaux connexionnistes, etc. En réalité, quand on parle des machines, et d'ailleurs Yann le souligne souvent dans ses interviews ou dans ses conférences, il faut être très prudent parce que nous ne savons pas exactement de quoi sera fait l'avenir des machines. Et les gens qui ont qui professent et qui énoncent des affirmations péremptoires comme « jamais une machine ne pourra faire ou ne sera capable de », bon, par exemple, créer, imaginer,
résoudre un paradoxe.
Voilà, résoudre un paradoxe, faire de la philosophie, bon. Ou les gens qui, au contraire, prétendent que les machines arriveront à nous surpasser, à faire tout ce que nous savons faire. Mais donc, les deux discours sont un petit peu hasardeux. Parce qu'il faut être beaucoup plus modeste et se dire, comme disait Socrate, je ne sais pas. Actuellement, nous ne savons pas. Nous sommes probablement devant l'émergence de quelque chose qui peut-être ira au-delà de nos capacités cognitives, augmentera notre spectre cognitif. J'aime bien l'expression spectre cognitif, un peu comme pour la vision, il y a un spectre visuel. Pour l'intelligence, il y aura une espèce de spectre cognitif. C'est possible, mais peut-être que non. Peut-être qu'on aura une très grande déception et comme le philosophe John Searle ou d'autres comme Hubert Dreyfus qui pensaient que finalement ça n'était que de la quincaillerie et ça resterait de la quincaillerie et que on ne demande pas à un thermostat de penser, on n'attribue pas à une calculette des idées. Et donc tout ça, c'est dans la tête de celui qui regarde, c'est-à-dire de nous. On voit de l'intelligence dans les machines, mais c'est une projection. Et d'après ces philosophes, qui ont des arguments d'ailleurs très, très sérieux, comme dans l'exemple de la chambre chinoise qui est dans mon livre, qui est un exemple connu de John Searle, eh bien pour eux, nous nous berçons d'illusions ou des fois nous cherchons à nous faire peur en imaginant un avenir terrible où les machines prendraient le pouvoir et ils n'y croient pas une seconde, ils pensent que c'est impossible.
Autour de la question, on y revient, à quoi nous servent à nous les humains qui sommes encore des homo sapiens, c'est pas encore uniquement des homo numericus, à quoi nous servent les paradoxes? Je propose d'écouter tout de suite ce que nous disait ici même il y a quelques années le professeur Henri Atlan, médecin, biologiste et philosophe avec lequel vous avez travaillé, Maurice Milgram, sur des modèles probabilistes en biologie, hein, pour des réseaux de neurones, Écoutez sur les paradoxes, Henri Atlan.
C'est une source de malentendus extraordinaire, le paradoxe. Certains pensent que quand on observe un paradoxe, eh bien, ça y est, c'est la fin des choses, quoi. Et on doit faire avec le paradoxe. Alors qu'au contraire, je crois que quand on observe un paradoxe, il faut tout faire pour lever le paradoxe, pour comprendre en quoi ce qu'on observe comme paradoxal n'est pas, dans le fond, paradoxal. Et qu'on observe un paradoxe parce qu'on ne comprend pas quelque chose.
Vous êtes d'accord avec Henri Atlan, Maurice Milgram ?
Eh bien, non, je ne vais pas être tout à fait d'accord avec Henri, alors que nous avons partagé de nombreuses années de travail en commun. Mais là, sur ses affirmations concernant les paradoxes, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a les paradoxes mathématiques qui existent de manière transitoire. Donc, je ne vais pas rentrer dans la technique, rassurez-vous, mais il a existé dans les années 1900 un certain nombre de paradoxes liés à la théorie des ensembles, ce que l'on a appelé la crise des fondements, qui ont suivi les travaux de Georges Cantor. Et ces paradoxes ont réellement existé, c'est-à-dire des contradictions. Un paradoxe en mathématiques, c'est une contradiction, c'est-à-dire quelque chose qui est inacceptable, qui met en péril l'ensemble des mathématiques.
Oui, ça ne peut pas être vrai et faux en même temps, c'est contradictoire.
Ça peut pas être vrai et faux en même temps, tout à fait. Les Grecs savaient déjà que si on avait un A et un non A simultanément, hein, c'est chez Aristote, eh bien l'ensemble des propositions serait à la fois vraie et fausse. Donc ça ne peut pas être toléré.
Donc ils ont été résolus, ces paradoxes.
Ils ont été résolus.
Mathématiques.
Alors, oui, mais le mot résolu est un mot ambigu. Mm-hmm. En mathématiques, on ne résout pas les paradoxes en trouvant quelle est l'erreur que contiennent leurs formulations, on les résout en changeant les mathématiques. D'ailleurs, oui, c'est terrible. Il faut modifier les axiomes, il faut faire le ménage, si je puis dire.
C'est terrible ou c'est extraordinaire, parce que ça permet de penser complètement à côté, enfin de faire un pas de côté, de réfléchir autrement. Ça oblige, en tout cas.
Oui, tout à fait. Mais alors, ça, c'est après coup. Mais quand les mathématiciens ont été au milieu de la crise, dans les années 1900-1905, Cantor, mis face à des paradoxes inventés par Russell, était quand même... il était très fortement déstabilisé. Puis après, les choses sont rentrées dans l'ordre, si l'on peut dire. Alors ça, c'est pour les paradoxes mathématiques, c'est-à-dire qu'on les résout en changeant, en gros, le système. Par contre, il existe toute une série de paradoxes, donc moi je ne parle pas de paradoxes physiques, mais de paradoxes logiques, il existe toute une série de paradoxes qu'on arrive à lever, effectivement, et là je rejoins Henri, en montrant comment notre intuition peut nous tromper, ou comment l'usage de termes imprécis, vagues, nous ont conduit à des paradoxes apparents. Donc, ils n'existent pas, mais ils sont quand même très utiles parce qu'ils nous font faire un travail.
D'où le titre de votre livre, on va y revenir, sur lequel la couverture montre une théière bleue, des corbeaux noirs, et la théière bleue, elle prouve que les corbeaux sont bien noirs. Avant d'y venir, je m'arrête sur une question d'un de nos auditeurs que je trouve très intéressante. Ils nous ont envoyé ça sur les réseaux sociaux. C'est Aldoudi à Abidjan qui dit « Est-ce que le paradoxe commence là où s'arrête la logique ?»
Alors, je ne suis pas non plus entièrement d'accord avec cette affirmation, mais il y a quand
c'est
même...
C'est une question, il y a un point d'interrogation.
Donc, je ne répondrai pas à un oui franc et massif. Disons que les paradoxes sont, comme je l'ai dit, des tâches. Donc, la tâche peut être le symptôme de quelque chose.
Des tâches sur la peau immaculée de la raison.
Voilà, la peau immaculée de la raison. Nous tenons beaucoup à notre raison. Nous pensons être des animaux rationnels. Les paradoxes sont là pour nous inciter à plus de modestie et faire un travail sur justement cette rationalité.
Et nous montre aussi à quel point on va y revenir, à quel point nous pouvons raisonner sur la manière dont nous raisonnons. Alors
Absolument. Précisément,
je reviens à votre couverture. Pourquoi est-ce que ces corbeaux noirs nous prouvent que cette théière est bleue ?
Alors, c'est pas tout à fait ça, je vais vous contredire. Ce qui est dans le paradoxe de Hempel, qui était un...
C'est le contraire.
C'est le contraire, oui.
La théière bleue qui prouve que les corbeaux sont noirs.
Et c'est pas prouvé, mais c'est simplement confirmé. Ce qui est déjà allé très loin. Donc, pourquoi une théière bleue confirmerait que tous les corbeaux sont noirs ? Donc ça, c'est un paradoxe proposé par Hempel. Donc, pour dire les choses le plus simplement possible, sans rentrer dans les arcanes de la notion de contraposé, etc., eh bien, le point de départ de Hempel, c'est de dire, si je veux vérifier que tous les corbeaux sont noirs, bon, l'attitude normale, c'est de prendre les corbeaux un par un, de les regarder et de dire, et de vérifier que chaque corbeau est noir. Mais il y a une autre possibilité. Imaginons qu'on soit dans un monde très réduit, où il n'y ait que quelques milliers d'objets, et parmi ces objets, des corbeaux, des théières, des stylos, etc. Je pourrais considérer tous les objets qui ne sont pas noirs. Bon, cette théière qui est bleue, par exemple, cette table qui est marron, etc. Et si parmi tous ces objets qui ne sont pas noirs, je ne rencontre aucun corbeau, j'aurais démontré que tous les corbeaux sont noirs, puisque parmi les objets qui ne sont pas noirs, il n'y a pas de corbeaux. On peut prendre un exemple qui est plus parlant. Mmh. Il y a eu un slogan publicitaire. Tous les gagnants du loto avaient acheté un billet. Mmh. Bon, c'était une façon publicitaire d'indiquer que si on voulait gagner au loto, bah, la première chose à faire, c'était d'acheter un billet. Mais évidemment, le publiciste, lui, il a pris, sans s'en rendre compte peut-être, une contraposée, c'est-à-dire qu'il a parlé des gens qui n'avaient pas gagné, et ils n'ont pas gagné, les pauvres, parce qu'ils n'ont pas acheté de billets. Bah, si on examine tous les objets qui ne sont pas noirs et que parmi eux, on ne trouve aucun corbeau, bah, on aura démontré que les corbeaux sont tous noirs.
Donc ça, c'est une démonstration logique, entre guillemets, mais qui... C'est un paradoxe.
Absolument. Donc c'est...
Qui ne tient pas.
Alors, ça tient tout à fait. Oui.
Et pourtant, on sait bien intuitivement que ça ne marche pas, même si ça tient.
Oui, ça, c'est un paradoxe à ranger dans la catégorie notre intuition nous trompe. Notre intuition, évidemment... Elle nous assure, notre intuition, notre sens commun, nous assure que pour vérifier que tous les corbeaux sont noirs ou d'autres choses, bah, il faut examiner les corbeaux. Peut-être pas tous, mais un maximum de corbeaux. C'est comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est ce que nous dit notre intuition. Parce que notre intuition, elle repose sur des milliers et des milliers d'années d'expérience de l'humanité et aussi sur quelques dizaines d'années de notre propre expérience. Nous savons que... les objets non noirs constituent une espèce de magma hétérogène et que ce n'est pas du tout raisonnable de les examiner un par un. Alors que les corbeaux, qui sont des oiseaux, partagent beaucoup de points communs et c'est beaucoup plus raisonnable de les examiner.
C'est-à-dire qu'à la fois notre intuition nous trompe et en même temps notre intuition nous sert. Nous ne sommes pas des machines, c'est quand même ça encore que les paradoxes viennent illustrer.
Tout à fait, vous avez absolument raison, moi je suis tout à fait d'accord. Notre intuition, elle est absolument indispensable, c'est toute la première partie du bouquin est là-dessus. Nous ne pouvons pas nous passer de l'intuition, nous ne sommes pas des machines, nous ne fonctionnons pas avec des algorithmes. D'ailleurs, les modèles qui considèrent le cerveau comme un superordinateur ont tous montré qu'ils nous conduisaient à l'échec, c'est pas du tout pertinent. En revanche, nous avons besoin de notre intuition pour comprendre, pour extraire des significations, pour imaginer de nouveaux raisonnements. Parce que les mathématiciens créent de temps en temps des nouvelles catégories de raisonnements. Donc ça prouve que la liste de tous les raisonnements possibles n'existe pas dans un gros livre qui serait fini, définitif.
Et ça veut dire donc que ces raisonnements, on en revient à ces machines, hein, souvent qui nous calculent, qui elles calculent, on ne peut pas les insuffler à des machines. En tout cas, c'est une forme de raisonnement et de logique différente, c'est ça.
Pour l'instant, oui. C'est-à-dire
pour l'instant,
que,
oui.
Voilà, pour l'instant, oui. On est absolument incapable de transférer des notions liées à l'intuition, à la signification, etc., à des machines. Les machines peuvent faire comme si. C'est-à-dire que quand vous utilisez un traducteur automatique, on a l'impression qu'il a compris le sens de votre phrase, parce que nous savons très bien que si on ne comprend pas le sens d'une phrase, on est incapable de la traduire. Comme l'ordinateur maintenant est capable de traduire, avec un certain taux d'échec, mais qui va en diminuant, nous serions fondés à affirmer que l'ordinateur comprend de mieux en mieux. Pas du tout. On ne peut pas affirmer cela.
L'ordinateur ne comprend pas.
L'ordinateur ne comprend pas. L'ordinateur, et donc les algorithmes, se contentent de manipuler des listes de symboles suivant des règles préétablies, même quand les ordinateurs ou les programmes, les algorithmes reposent sur des modèles basés sur les réseaux de neurones, comme celui qui a battu le champion du monde de Go, mmh. AlphaGo. Ce n'était pas des suites de règles au sens strict du terme, mais... Si on va regarder au fond du fond, ce sont quand même des 0 et des 1, et puis des règles de manipulation de ces 0 et de ces 1. Donc, l'ordinateur n'a pas compris ce qu'était le jeu de Go, il n'a pas compris ce qu'était une phrase, il n'a pas compris ce que je voulais dire, on ne peut pas affirmer cette chose-là. Bien sûr, il y a...
C'est quoi, il a réussi, enfin en calculant, c'est de la logique pure, c'est ça qui...
Oui, si on identifie brutalement la logique et le calcul, effectivement, bon, je renvoie les gens à l'excellent livre de Dweck sur les rapports
entre Gilles Dweck, que nous avons reçu ici, bien sûr. Oui,
vous avez interrogé déjà. Et la frontière entre le calcul... Et le raisonnement est une frontière un peu complexe. C'est-à-dire que quand on fait une démonstration, donc quand on fait un raisonnement, à première vue, on a l'impression qu'on fait un calcul. Parce qu'il y a une suite de raisonnements, un peu comme Sherlock Holmes, quand il trouve le coupable, on a l'impression qu'on a une suite de raisonnements parfaitement formalisés qui s'enchaînent. Bon, là, je ne peux pas rentrer vraiment dans les détails, mais on peut montrer que ça n'est pas le cas. Et d'ailleurs, il y a eu un événement très important au XXe siècle, dans les années 1930. C'est un mathématicien qui s'appelle Kurt Gödel, d'origine autrichienne, qui a vécu aux États-Unis, et qui a montré que la notion de vérité que nous avons, donc la notion, disons, intuitive de vérité, ne se ramène pas à un calcul. Et ça a été très, très grave, parce que ça a beaucoup surpris ses contemporains. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui étaient vraies et que l'on ne pouvait pas prouver. Non pas parce qu'on n'était pas assez bon, on n'était pas assez malin, on ne trouvait pas les bons raisonnements, mais parce que c'était strictement impossible. C'est-à-dire que...
Il y a de l'improuvable.
Absolument, il y a de l'improuvable, il y a de l'indéterminé au sein des mathématiques. C'est pour ça que...
Il y a du vague, il y a de l'incertain aussi.
Oui, alors ce sont deux choses différentes, mais il y a du vague et de l'incertain. C'est-à-dire que les mathématiques sont suffisamment puissantes pour formaliser cette notion de vague et d'incertain. Donc elle le porte, mais elle le porte en dernière analyse avec des choses qui, elles, sont pas du tout vagues et pas du tout incertaines. Mais il existe aussi de l'indéterminé.
Autour de cette question très paradoxale des paradoxes, on continue de s'interroger cette fois-ci en musique avec Kerry James et Cléo sur RFI Paradoxal.
Teinté d'obscur et de lumière, juste entre ce que je suis et ce que j'aimerais être. Ah ah, entre réel et illusoire. Face à un mur, face à moi-même, mes cicatrices sont ma mémoire, elles me rappellent. Ah ah, il n'y a pas de paix sans combat. Paradoxal.
Laisse-moi briser la glace. Je me bats face à un miroir, je cherche l'ennemi en face, mais je suis le seul que je peux y voir. Comment vivre en paix, en guerre avec mes contradictions? Comment m'émanciper, frère, prisonnier de mes addictions? Tant que James est vivant, c'est de lui que vient le danger. Et chaque jour suivant, Alex se promet de changer. Mais la nuit chasse le jour, et le jour la nuit. Je suis toujours ce que je crains, toujours ce que j'écris, toujours ce que je fuis. Toujours ce que je suis, on oubliera ce que j'ai souhaité, restera ce que je fis. Je voulais marcher vers le sud, mais j'ai rampé vers le nord, en me cherchant des excuses quand j'avais tout simplement tort. J'essaie de garder l'équilibre, malgré mes mauvais penchants. Et si je me sens pas libre, c'est que ce bas monde est trop attachant. Je suis déboussolé, comme un Africain occidental, entre ce que je dis et ce que je fais. Y'a quelque chose de paradoxal, teinté d'obscur.
Et de lumière, juste entre ce que je suis et ce que j'aimerais. Ah ah, entre réel et illusoire. Face à un mur, face à moi-même. Mes cicatrices sont ma mémoire, elles me rappellent. Ah ah, il n'y a pas de paix sans combat. Paradoxal.
Paradoxal, Kerry James et Cléo sur RFI. Autour de la question à quoi nous servent les paradoxes, ces paradoxes qui n'existent pas mais sont pourtant bien utiles, pour reprendre le titre de l'essai de notre invité, le mathématicien Maurice Milgram, avec un nouvel éclairage tout de suite sur leur rôle et leur intérêt paradoxal précisément en science. C'est, excusez du peu, le prix Nobel de physique Claude Cohen-Tanoudji qui était récemment notre invité qui nous éclaire.
Moi, je pense que les paradoxes sont très utiles. Très, très utiles, parce qu'en général, ils posent des questions troublantes, qu'on ne comprend pas, qui semblent contradictoires avec tout ce qu'on connaît. Or, pour progresser, pour aller plus loin, il faut justement dépasser ce qu'on connaît. Il faut aller plus loin que les théories actuelles. Et une meilleure manière de les poser, ces problèmes, c'est les paradoxes, de trouver dans la connaissance actuelle des insuffisances, des contradictions qui aboutissent à des situations paradoxales et qui impliquent de trouver des nouvelles idées, de trouver des nouvelles théories pour résoudre ces paradoxes. Donc je pense que c'est fondamental.
Et Claude Cohen-Tanoudji, de nous citer évidemment le paradoxe de la non-localité qui a permis le développement de la physique quantique, le paradoxe d'Einstein-Podolsky et Rosen. Vous voulez réagir à ces mots donc du prix Nobel de physique, Claude Cohen-Tanoudji, Maurice Milgram, sur l'intérêt, l'utilité des paradoxes.
Je me sens tout petit après un prix Nobel. Beaucoup d'admiration pour ce monsieur qui a travaillé dans sa cave rue Laumont à essayer de bloquer des atomes avec des lasers. Oui, ben je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait que les paradoxes sont un peu comme des explosifs, c'est-à-dire ils nous obligent à trouver de nouvelles voies et ils font exploser les cadres anciens. Einstein s'est servi de plusieurs paradoxes, mais avant même celui de non-localisation, il y avait l'expérience des interférences qui ont montré que la lumière se propageait ne pouvait pas dépasser la limite et c'était une contradiction avec les idées de la physique, c'est-à-dire que normalement les vitesses s'ajoutent et Einstein constatait que dans l'expérience de Michelski, elle ne s'ajoutait pas et donc il fallait faire autre chose. Donc effectivement,
ce sont des contradictions, les paradoxes. Oui. Il en donnait une définition.
Oui.
Paradoxal, l'étymologie, c'est à côté du sens commun, c'est ça. Ce serait une contradiction en
fait. Tout à fait, c'est une contradiction. Alors, soit la contradiction est réellement dans la théorie, il faut changer de théorie, comme je l'ai mentionné tout à l'heure en maths, mais ça peut être vrai en physique. Soit elle n'est pas dans la théorie, elle est dans notre tête, dans notre façon de formuler les choses. Et là, il faut travailler sur cette formulation.
D'où l'intérêt, ça permet de penser à côté. Et ce sont des contradictions, des paradoxes qui peuvent être absurdes, cocasses, qui peuvent nous amuser. On a un autre auditeur sur les réseaux sociaux, cette fois-ci, il nous écrit depuis Madagascar, Andriana Rivo-Solofo, qui dit assez joliment lui aussi, s'il n'existe pas les paradoxes, pourquoi est-ce qu'on les cultive? Alors, je poursuis avant de vous laisser répondre. C'est toujours Andriana Rivo qui nous parle. J'aime bien les paradoxes, surtout quand ils commencent à mûrir. Je les cultive. Je suis un paradoculteur. Je trouve ça un mot magnifique. Vous êtes un paradoculteur, Maurice Milgram. De l'intérêt de les cultiver, justement, pour penser à côté, pour s'exercer à penser autrement, à avoir des idées plus fécondes, plus fertiles.
Oui, tout à fait. Les paradoxes sont extrêmement stimulants. Certains, comme le paradoxe de l'examen surprise, le paradoxe de Hollis ou d'autres.
Elle est faite, nous partager lequel ? L'examen surprise, c'est pas trop compliqué ? Ou peut-être plus simple ?
L'examen surprise, c'est un petit peu compliqué.
Oui.
On peut prendre un exemple qui est de même nature et qui est peut-être plus simple. C'est le paradoxe de Hollis, dans lequel, imaginez deux personnes qui se trouve devant une urne avec des jetons de 1 à 4. Et chacun prend un jeton. Donc Abel prend le 2 et Caïn prend le 3. Et à ce moment-là, il y a une grosse voix qui leur dit voilà la règle du jeu. Celui qui a trouvé le jeton le plus grand gagnera le gros lot et l'autre n'aura rien. Mais, moi qui sais tout, c'est une grosse voix qui vient du ciel, moi qui sais tout, je peux vous dire que, vu les jetons que vous avez tirés, aucun de vous deux ne peut savoir qui l'a le plus grand. Alors, le mot important, c'est savoir. Aucun de vous deux ne peut savoir. Alors, Abel regarde, il a le jeton numéro 2, donc effectivement, il ne sait pas trop. Et Caïn, le jeton numéro 3, il ne sait pas trop non plus. Mais Caïn fait le raisonnement suivant. J'ai le 3... on me dit que l'autre, donc Abel, ne peut pas conclure. Donc, Abel ne peut pas avoir le 4. Abel ne peut pas avoir le 4, ni le 1 d'ailleurs, parce que s'il avait le 4 ou le 1, c'est-à-dire les deux jetons extrêmes, il saurait que moi, je suis au milieu. Donc, ce n'est pas le cas. Et moi, ayant le 3, j'ai forcément le plus grand. Donc, ce que dit la voix n'est pas vrai. Moi, je peux savoir. Puisque j'ai le 3, je sais que j'ai le plus grand. Et évidemment, Abel peut faire le même raisonnement. Donc, il y a quelque chose de paradoxal. La voix a énoncé quelque chose de vrai. Aucun des deux ne pouvait savoir. L'un avait le 2, l'autre le 3. Il ne pouvait pas savoir s'il avait le plus grand. Et pourtant, à partir du moment où cet énoncé a été public, il devenait faux. C'est, si vous voulez, le contraire d'une prophétie autoréalisatrice. Une prophétie autoréalisatrice, c'est quelque chose qui a priori est faux et qui devient vrai quand on l'énonce. Par exemple, demain, on va manquer de masques pour le coronavirus. Tout le monde se précipite dans les pharmacies et effectivement, on manque de masques. Donc, quelque chose qui était faux au départ devient vrai. La prophétie s'est réalisée parce qu'elle a été énoncée publiquement. Là, c'est l'inverse. On a énoncé quelque chose qui était parfaitement vrai. Si c'était resté secret, cette vérité secrète aurait été une vérité.
Mais comme elle a été énoncée, dite, du coup, elle pouvait être réfléchie et elle s'est révélée fausse.
Absolument. Et alors, le mot réfléchi, vous ne pouviez pas dire mieux. Réfléchi, le miroir. Il s'agit bien d'un miroir. On est dans une logique spéculaire, c'est-à-dire que les gens réfléchissent non seulement à ce qu'ils savent, mais à ce que savent les autres et aux raisonnements que peuvent faire les autres. Et il existe comme ça toute une collection de paradoxes qui sont construits sur des éléments qu'on retrouve, par exemple, dans la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité que nous avons, nous, à partir de 5 ou 6 ans, les humains, mais aussi certains primates comme les chimpanzés, à raisonner sur les connaissances et sur les raisonnements de nos congénères. Nous sommes capables de les intégrer dans nos raisonnements.
Et ça, ça change tout, justement. C'est-à-dire le fait de pouvoir se projeter, savoir ce que l'autre pense ou ce qu'il raisonne, c'est ça qui change tout. Et c'est ça qui ne peut pas être, pour le moment, introduit dans une machine avec des calculs. Enfin, très grossièrement résumé, c'est ça.
Tout à fait. Actuellement, un ordinateur, un programme n'est pas capable, mais je dis bien actuellement, n'est pas capable de se livrer à la théorie de l'esprit. Il peut la simuler, mais nous avons un avantage pour l'instant sur la machine, c'est que, étant des êtres humains, les raisonnements des autres êtres humains nous sont, dans une certaine mesure, familiers. C'est-à-dire que quand nous nous livrons à de l'introspection, eh bien, nous sommes capables de penser comme notre voisin, en théorie du moins. Et donc, ça, une machine, a priori, ne peut pas le faire, mais c'est symétrique. Nous ne sommes pas capables non plus de nous mettre dans la peau, entre guillemets, évidemment, dans la peau métallique d'un ordinateur et de savoir comment il pense.
Et de savoir comment, par exemple, AlphaGo a battu le champion du monde de Go. On ne sait pas comment ça s'est passé. Autour de la question, à quoi servent les paradoxes? Nouvelle question, tout aussi paradoxale, soulevée par un autre mathématicien et vidéaste, Michael Launay, formidable passeur et auteur de sciences, notamment sur sa chaîne YouTube Micmat. Écoutez, c'est pour vous, Maurice Milgram.
Les paradoxes, ce qui me semble intéressant, c'est que c'est toujours quelque chose d'assez double, d'assez ambigu, parce que à la fois, un paradoxe, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, donc ça nous incite à penser plus loin, ça nous incite à comprendre ce qui ne fonctionne pas et donc à vouloir résoudre le problème, à vouloir réparer ce qui est cassé. Et en même temps, quand certains paradoxes sont trop profonds, ça peut mettre vraiment beaucoup de choses par terre, ça peut vraiment détruire pas mal de choses, je pense particulièrement dans certaines théories mathématiques qui peuvent parfois être mises à mal par certains paradoxes. Et donc finalement, dans cette balance entre le côté paradoxe qui aide à construire et paradoxe qui détruit, comment est-ce que ça s'équilibre et comment est-ce que les paradoxes arrivent à trouver leur place et à faire avancer, reculer en même temps la science? Qu'est-ce que vous en pensez?
Qu'est-ce que vous en pensez, Maurice Milgram? Et ce n'est pas le moindre des paradoxes que vient de soulever Michael Launay.
Oui, je suis assez d'accord avec lui. Bon, je ne l'aurais pas formulé en ces termes-là. Mais effectivement, comme je l'avais déjà indiqué tout à l'heure, il y a des paradoxes qui mettent par terre des théories, théorie des ensembles par exemple, tournant autour de la notion d'infini et tout ça, et qui nous obligent à tout reconstruire. Et c'est un travail gigantesque. Et dans ce sens, ils font avancer. Mais l'autre...
Le versant négatif des paradoxes, enfin, ils sont ni positifs ni négatifs.
Oui, d'ailleurs, dans ma réponse, on voit bien que je les mets finalement dans le même sac. Oui. C'est-à-dire que soit on nous oblige à préciser certaines notions, à sortir du flou, soit on nous oblige à reconstruire. Dans les deux cas, les paradoxes nous font avancer ils ne peuvent pas être bloquants trop longtemps. Alors, il y a des paradoxes qui résistent, effectivement. Mais s'ils résistent, c'est que nous n'avons pas encore trouvé la bonne manière de lever l'ambiguïté qui est inhérente à leur formulation.
C'est vrai, hein, la preuve, dans votre livre, hein, vous nous levez bon nombre de paradoxes. Hein, je rappelle son titre, les paradoxes n'existent pas, mais sont quand même très utiles autour de cette question des paradoxes. Vous avez choisi de nous projeter, j'ai envie de vous dire, dans un autre monde, jusque dans le jardin extraordinaire de Charles Trenet. C'est votre choix musical, Maurice Milgram, et vous nous expliquerez pourquoi ensuite.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant « Thank you very much, Monsieur Trenet ». On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont monsieur le maire et le sous-préfet. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard dans ce jardin extraordinaire. Loin des noirs buildings et des passages cloutés, il y avait un bal que donnait des primevères. Dans un coin de verdure, des petites grenouilles chantaient une chanson pour saluer la lune. Dès que celle-ci parut toute rose d'émotion, elles entonnèrent, je crois, la valse brune. Une vieille chouette me dit, quelle distinction! Maman, dans ce jardin extraordinaire, je vis soudain passer la plus belle des filles. Elle vint près de moi et là me dit sans manière, vous me plaisez beaucoup, j'aime les hommes dont les yeux brillent.
Le rire dans le jardin extraordinaire de Charles Trenet sur RFI. Pourquoi ce choix, Maurice Milgram, autour de cette question des paradoxes ?
Ah, c'est très simple. À la fin de la chanson, Charles Trenet, dans le texte de la chanson, dit « Mais vous, les auditeurs, vous voudriez savoir où se trouve ce jardin ?» Et il dit « Ce jardin se trouve au cœur de ma chanson. » Donc, la réponse de Trenet dans la chanson, c'est une réponse autoréférentielle. Le jardin est au cœur de la chanson. Alors, on peut le voir comme une métafiction, on peut le voir... Enfin,
bon, et c'est vrai en même temps, c'est absolument vrai.
Et en même temps, c'est vrai. Et le mot « cœur » a un double sens, c'est-à-dire il est au cœur, donc au milieu de la chanson, et il est au cœur au sens sentimental. Voilà, il justifie la chanson. Quoi.
Merci pour ce choix. On n'écoutera peut-être plus ce jardin extraordinaire de la même manière. Et en tout cas, la prochaine fois, jusqu'au bout, on sait bien hein, autour de cette question des paradoxes. Je rappelle le titre de votre livre, « Les paradoxes n'existent pas, mais sont quand même très utiles ». Ben, on sait bien que c'est souvent le rôle des chanteurs, des artistes, des penseurs et des écrivains que de nous titiller un peu, de nous réveiller justement. Vous citez souvent, et ce n'est pas un hasard, Borges, le formidable écrivain argentin, dans votre essai Maurice Milgram, et vous avez choisi un passage de la nouvelle La Bibliothèque de Babel, où Borges, le visionnaire, décrit déjà, j'ai envie de dire, tous les paradoxes de nos sociétés numériques. On l'écoute.
Ces exemples permirent à un bibliothécaire de génie de découvrir la loi fondamentale de la bibliothèque. Ce penseur observa que tous les livres, quelque divers qu'ils soient, comportent des éléments égaux. L'espace, le point, la virgule, les 22 lettres de l'alphabet. Il fit également état d'un fait que tous les voyageurs ont confirmé. Il n'y a pas, dans la vaste bibliothèque, deux livres identiques. De ces prémices incontroversables, il déduisit que la bibliothèque est totale et que ses étagères consignent toutes les combinaisons possibles des 20 et quelques symboles orthographiques, nombre, quoique très vaste, non infini, c'est-à-dire tout ce qu'il est possible d'exprimer dans toutes les langues. Tout, l'histoire minutieuse de l'avenir, les autobiographies des archanges, le catalogue fidèle de la bibliothèque, des milliers et des milliers de catalogues mensongers, la démonstration de la fausseté de ces catalogues, la démonstration de la fausseté du catalogue véritable, l'évangile gnostique de Basilide, le commentaire de cet évangile, le commentaire du commentaire de cet évangile, le fait véridique de ta mort, la traduction de chaque livre en toutes les langues, les interpolations de chaque livre dans tous les livres, le traité que Bède put écrire ou n'écrivit pas sur la mythologie des Saxons, ainsi que les livres perdus de Tacite. Quand on proclama que la bibliothèque comprenait tous les livres, la première réaction fut un bonheur extravagant. Tous les hommes se sentirent maîtres d'un essor intact et secret. Il n'y avait pas de problème personnel ou mondial dont l'éloquente solution n'exista quelque part. Dans quelque hexagone, l'univers se trouvait justifié. L'univers avait brusquement conquis les dimensions illimitées de l'espérance. En ce temps-là, il fut beaucoup parlé des justifications, livres d'apologie et de prophétie qui justifiaient à jamais les actes de chaque homme et réservaient à son avenir de prodigieux secrets. Des milliers d'impatients abandonnèrent le doux hexagone natal et se ruèrent à l'assaut des escaliers, poussés par l'illusoire dessein de trouver leur justification. Ces pèlerins se disputaient dans les étroits couloirs, proféraient d'obscures malédictions, s'étranglaient entre eux dans les escaliers divins, jetaient au fond des tunnels les livres trompeurs, périssaient précipités par les hommes des régions reculées. D'autres perdirent la raison.
Il y a de quoi perdre la raison, c'est peut-être notre cas aujourd'hui hein, dans notre monde numérique. Maurice Milgram, vous avez choisi donc cet extrait de la nouvelle « La bibliothèque de Babel » de Georges Borges, poète, visionnaire aveugle, vous me l'avez rappelé, autre paradoxe. On a l'impression qu'il illustre ce qu'on vit ou ce qu'on est peut-être en train de vivre aujourd'hui dans nos sociétés numériques interconnectées.
Oui, c'est... Quand on lit la nouvelle de Borges, on pense tout de suite à Internet, évidemment, alors qu'elle a été écrite en 1942. Ça a été repris d'ailleurs par Umberto Eco dans le Nom de la Rose, où le bibliothécaire est aveugle et s'appelle Jorge, frère Jorge, donc c'est une référence. Bon, après, l'histoire est un petit peu différente, mais... Borges avait une intuition, j'ai envie de dire mathématique, alors qu'il n'était absolument pas mathématicien. Mmh. Et il avait cette intuition que le tout, la totalité, quelque chose de total, d'absolu, qui contient tout, avec ses combinatoires incroyables, c'est quelque chose de paradoxal, c'est quelque chose de menaçant aussi. D'ailleurs, il se contredit lui-même dans la nouvelle. À un moment, il dit qu'elle est infinie. À un autre moment, il dit qu'elle n'a pas besoin d'être infinie.
La bibliothèque qui contient tout.
La bibliothèque de Babel, oui. Et c'est quelque chose de fascinant. C'est-à-dire l'idée qu'on pourrait, un lieu, alors ça peut être une ferme d'ordinateurs, ça peut être effectivement une vraie bibliothèque, contiendrait la totalité de ce qu'il est possible d'écrire, de dire, de penser dans toutes les langues, y compris des tas de langues qui n'existent pas encore, mais qui existeront ou qui pourraient exister. Donc il y a un jeu sur le possible, le potentiel, le virtuel, et sur ce qui existe. Et cette idée, dans l'extrait qui a été lu, que des gens se contentent de chercher finalement l'œuvre qu'ils auraient aimé écrire, plutôt que de l'écrire, plutôt que de la produire, de l'inventer.
Plutôt que de la vivre, hein, j'ai envie de dire. Hein, plutôt
voilà,
que de vivre,
on retrouve un petit peu ça maintenant avec le web, où des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'imagination vont chercher dans cette bibliothèque extraordinaire des idées.
Paradoxal, donc évidemment, hein, c'est un exemple de paradoxe, mais j'ai envie de vous demander, après avoir lu votre ouvrage, les paradoxes n'existent pas, mais sont quand même très utiles, Maurice Milgram, si au fond, cette manière de penser qui nous permet de penser les paradoxes finalement, nous interroger sur notre raisonnement, de permettre ça, est-ce que c'est pas ça au fond, je pousse un peu loin le bouchon, mais qui serait le propre de la pensée humaine, justement. Le propre de l'homme, on a de plus en plus de mal à le trouver, hein, puisque les animaux sont capables de plein de choses, puisque les machines, nous les avons rendus capables de plein de choses aussi. Est-ce que ce ne serait pas cette capacité d'appréhender les paradoxes, justement ?
Effectivement, c'est une tentation d'essayer de caractériser notre humanité. On a essayé par le rire, on a dit que c'était un animal politique. bon, peut-être qu'un jour, un singe nu, peut-être que, voilà, des anthropologues diront, mais non, finalement, l'homme, c'est un animal paradoxal. Alors, il est paradoxal parce qu'il s'auto-détruit, donc ça, c'est
déjà,
on peut dire que c'est déjà
oui,
un premier paradoxe.
Effectivement, et qu'on peut se dire pourquoi, finalement, on continue à aller dans le mur alors qu'on le sait bien.
Oui,
c'est pas le moindre des paradoxes.
Voilà. Alors, c'est un paradoxe. Mais là, on aborde des paradoxes qui ne sont pas strictement logiques, qui sont même plutôt illogiques, qui sont donc les paradoxes liés à la politique ou au social. Mais il est clair qu'il y a un fil conducteur, il y a quelque chose qui relie les paradoxes logiques et les paradoxes sociopolitiques.
Et nos paradoxes intérieurs aussi. Enfin, on est tous, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, je suis assez contradictoire. Enfin, je peux avoir des envies, des idées très contradictoires. On est intimement, intrinsèquement paradoxaux ou contradictoires. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Moi, je suis d'accord avec quelqu'un comme Stanislas Dehaene qui pense que qui suggère que la pensée est multiple et que seule la conscience est unique, c'est-à-dire on aurait des tas de flux de pensées inconscients, mais pas l'inconscient au sens de Freud, un inconscient au sens cognitif, au sens neurophysiologique quasiment, et que finalement la conscience c'est le choix, l'élection d'une de ces pensées qui émerge à la conscience. Donc quand je veux manger du chocolat, j'ai une petite voix qui me dit non, il ne faut pas le manger parce que tu en as déjà mangé trop, une autre qui me dit oui mais c'est quand même bon de manger du chocolat, et puis tout ça c'est inconscient, mais il y en a une qui finit par triompher, et en général je mange le chocolat.
Et comment est-ce qu'on fait, dernière question, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, Maurice Mirand, comment on fait face à toutes les injonctions contradictoires, à tous les paradoxes? Vous prenez cet exemple du chocolat, mais je pense à nos publicités dans nos pays où on sous une publicité pour une barre de friandises, on vous dit manger des fruits et légumes. Enfin, on est déjà paradoxaux, mais alors en plus, on nous envoie de sacrées contradictions dans les oreilles ou dans les yeux. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment on fait pour vous qui êtes expert des paradoxes?
Oui, alors moi, je suis un modeste expert des paradoxes.
Mathématicien, un modeste mathématicien.
Logique, donc je ne peux pas en tirer quoi que ce soit.
Dommage.
Sur le plan... Oui, c'est un peu dommage.
Dommage. Mais... Et voilà pourquoi vous concluez votre livre en citant Socrate. Hein. Je ne peux pas savoir.
Oui, je ne peux pas savoir.
C'est
oui,
peut-être c'est une phrase à cultiver, justement.
Oui, mais je pense que si les hommes politiques de temps en temps disaient plus ça, c'est-à-dire je ne sais pas, je ne peux pas savoir, cela dépasse mes compétences, peut-être qu'ils gagneraient en crédibilité.
Merci pour cette conclusion sur cette ignorance, interrogation existentielle. C'est là-dessus qu'on va se quitter provisoirement, je l'espère. Merci infiniment, Maurice Milgram, d'être venu partager tous ces paradoxes avec nous. Et je rappelle le titre de votre ouvrage passionnant, « Les paradoxes n'existent pas, mais sont quand même très utiles », paru aux éditions du Pommier. Et vous revenez quand vous voulez.
Merci beaucoup.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter à volonté sur le site de RFI Pure Radio ou en vous abonnant au podcast Autour de la question sur votre application favorite ainsi que sur Spotify. Avis aux amateurs, vous êtes nombreux et on vous en remercie de tout cœur. C'est un plaisir de nous cultiver ensemble avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Rendez-vous lundi, chers amis auditrices et auditeurs, pour nous interroger cette fois-ci sur la diversité de nos rites funéraires depuis les origines, à travers les âges et sous toutes les latitudes, comment prenons-nous soin de nos morts et qu'est-ce que ça dit de notre humanité? Piste de réponse de l'archéologue, anthropologue et globetrotteur Éric Crubezy. À lundi donc. En attendant, surtout restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du journal. Tout à l'heure.